BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, on est ravis de vous retrouver en service concentré, mais continu, service concentré de BFM Bourse, chaque soir pendant l'été, aux alentours de 17h30 et jusqu'à 18h. Dans un instant, on va vivre la clôture, bien sûr, des marchés en direct, clôture hebdomadaire d'ailleurs, avec le CAC 40 qui pourrait signer une semaine à peu près flat, malgré la baisse ce soir de 0,4 à l'instant pour notre indice phare parisien. Donc service concentré, mais continu, hein, tout au long de l'été, on sera là, bien sûr. Bien évidemment, vous ne raterez rien et aucune séance chaque soir à cette heure-ci. Avec ce soir nos deux experts, ils sont là, Maxime Lejuez, gérant pour GSD Gestion, il tient la baraque chez GSD là, il va la tenir tout l'été. Bonsoir Maxime. Et Julien Marion, BFMBourse.com. Bonsoir Julien.
Sur la baraque à frites.
Ouais, la baraque à frites, effectivement. Enfin, la frite, je sais pas, est-ce qu'on l'a la frite là sur les marchés?
Pas vraiment. Là.
Pas sûr. Hein, ouais. CAC 40 donc en repli, c'est vrai. L'Eurostock 50, je le vois à moins 1%. On regarde Wall Street, tiens, comment ça se passe à Wall Street ce soir? Eh bien, le S&P perd 0,7 et surtout le Nasdaq perd 1,5%. Il y a une grosse sensation sur les marchés aujourd'hui. Avant de vivre la clôture dans 5 minutes, on peut tout de suite en parler parce que c'est un énorme changement. On verra s'il est durable. Mais Nvidia n'est plus la première capitalisation mondiale, les amis. Alors là, à l'instant, si, mais il y a quelques minutes, Apple est passé devant Nvidia au rang de première capitalisation mondiale. C'est une première, Maxime, depuis avril 2025. Moi, je pensais que ça faisait plus longtemps qu'Nvidia était première capi mondiale. Non, c'est depuis à peine un an et trois mois. Mais voilà, pour la première fois, Nvidia ne l'est plus aujourd'hui.
Ils ont perdu leur couronne pendant, on va dire, quelques minutes, quelques heures. Bon, c'est très serré, comme vous l'avez dit. Ça se...
Oui, c'est la course de petits chevaux,
voilà,
là.
Hein. C'est
oui.
Un peu ça. Mais... bah, ils sont un petit peu, c'est des profils différents. Apple, ils bénéficient en fait pendant, c'est un peu la revanche d'Apple parce que pendant très longtemps ils étaient stigmatisés en disant que ça allait être finalement un peu des losers de l'IA parce qu'ils investissaient pas assez dans l'IA. Et finalement, ces derniers mois, c'est ce qui les a portés parce que c'est presque le parmi les GAFAM celui qui est le plus rassurant parce qu'il ne dépense pas sans compter des dizaines voire des centaines de milliards. Alors il a aussi bénéficié de facteurs. On a eu un très 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 gros succès de l'iPhone 17 qu'il a porté et bon maintenant on va voir si ça continue, si ça continue parce que Apple a quand même dû augmenter ses prix donc sur tous ses produits donc on verra si ça le pénalise un petit peu.
Ouais, c'est un symbole. Alors on verra si ça dure, Julien, ça va être la question. On aurait pu en faire un match d'ailleurs. Tiens, oui, votre avis
ouais,
dans vous y avez pensé aussi Julien?
Non, j'ai pas pensé voilà. Mais ça n'empêche pas que vous avez quand même raison.
Bah, alors voilà, est-ce que ça va durer ou pas d'après vous là? Apple devant Nvidia, Apple redevenu première catégorie.
Moi, j'y crois absolument pas. Alors pas du tout. Le problème en fait, si vous voulez, c'est que Nvidia, en fait, c'est une valeur de momentum un peu malgré elle. Je veux dire sinon c'est vraiment très solide Nvidia. Il y a pas les résultats, il faudra attendre pour les avoir, ce sera fin août. Je dis pas bêtise. Donc, on n'aura pas de fondamentaux qui risquent de soutenir le stock. Par contre, on va avoir de, si vous voulez, en fait, du sentiment de marché. Le sentiment de marché, je pense qu'il va s'améliorer parce que là, pour le coup, il y a un gros dégagement sur. On l'a pas dit, mais ce qui fait que Nvidia chute aujourd'hui, c'est ce sentiment de défiance vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne IA en amont. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les semi-conducteurs, les producteurs de GPU, les cartes graphiques, ce que fait Nvidia. Parce que mais aussi de l'ensemble de la chaîne de semi-conducteurs. La plus forte baisse, bon, c'est pas encore clôturé mais à Paris, mais c'est ST Micro, c'est Soitec. Oui. Ça va être aussi Legrand et Schneider Electric qui produisent des logiciels, des mécanismes en fait électriques pour gérer l'efficacité énergétique dans les data centers. Donc actuellement, le marché est en défiance sur l'amont de la chaîne de valeur de l'IA. Apple, ils sont totalement en aval. Eux,
ils investissent,
l'IA, ils la développent pas.
Ouais, ils investissent quasiment rien hein, dans l'IA. On dit que c'est des retardataires de l'IA, mais c'est peut-être ce qui va les sauver, en l'occurrence.
Ils créent des architectures qui pluguent l'IA, en fait, si vous voulez. C'est ce qu'ils ont montré, en fait, Siri. C'est les partenariats qui font qu'en fait, ils peuvent avoir l'IA dans leur
Ils prennent le meilleur des autres.
Et si vous voulez, actuellement, c'est simple, en fait. La ruée vers l'or. On vend les vendeurs de pioches, on vend les gens qui essayent d'extraire l'IA parce qu'on a l'impression qu'en fait, ça coûte de plus en plus cher d'extraire de l'or. Or, Apple, ils extraient pas l'or. Ils prennent l'or pour en faire des bijoux. C'est ça, je pense, la bonne métaphore.
Oui, mais pourquoi est-ce que le sentiment des marchés a à ce point changé, évolué vis-à-vis justement des pelles et des pioches dont on nous disait, bon, les hyperscalers, eux, ils investissent comme des malades, donc ça va être à eux de faire la preuve de la rentabilité de leurs investissements, mais en revanche, tous ces investissements, ils sont en faveur justement des acteurs des semi-conducteurs, des cartes mémoire, parce que c'est eux qui bénéficient de cette demande-là incroyable des hyperscalers. Pourquoi d'un coup, ce segment-là aussi a basculé dans le rouge?
Moi, j'ai plusieurs explications à cela. La première, c'est que sur les semi-conducteurs, je vois bien des semi-conducteurs hors à Nvidia, c'est-à-dire ceux qui sont plus sur les applications différentes, qui sont par exemple les puces pour les interconnexions dans les data centers. C'est ce que fait notamment STMicro.
Oui.
On a été sur des hausse vertigineuse qui fait que les valorisations sont tendues. Mmh. Kioxia, par exemple, qui fait des puces mémoire à Tokyo, aujourd'hui, ils ont perdu quelque chose comme 16%. TSMC perd 5% oui. parce qu'ils annoncent une hausse de leur CAPEX. Donc c'est,
Encore une hausse des investissements.
Donc on a ça. Et par ailleurs, en fait, on a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est le marché du crédit aux États-Unis qui commence à grincer les dents sur certains hyperscalers. SpaceX est un hyperscaler qu'on veuille ou non. Hier,
on en parlera de SpaceX, on les laisse de côté.
Oui, excusez-moi. Ouais. Mais juste pour dire qu'en fait, les obligations qui sont exigeantes actuellement sur le marché secondaire de SpaceX, elles n'ont pas arrêté de chuter et leur rendement a monté. Donc vous voyez bien que le marché obligataire, il commence à dire on ne sonne pas à la fin de la récré, mais oui. arrêtez de faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a un ensemble de faisceaux qui créent un sentiment de marché négatif qui font même plonger Nvidia, ça perd combien? 3-4%.
Là, à l'instant, on est à moins 2, là.
Mais voilà, moins c'est pas une hausse démesurément élevée par rapport à l'ensemble du
comportement. Oui, mais c'est vrai, mais on regarde le segment tech, Nasdaq en baisse là ce soir d'1,4%, Apple est en hausse de 0,3%, et puis on a aussi cette entreprise chinoise qui s'appelle Moonshot AI qui a dévoilé un nouveau modèle qui, d'après cette entreprise, comble l'écart avec les grands modèles américains. C'est-à-dire que peut-être là, une partie du marché se dit, oulala, il y a un nouvel effet DeepSeek possible vis-à-vis des acteurs américains de l'intelligence artificielle, parce que si on a des modèles open source chinois qui débarquent, ça remet en cause tout le modèle des IA américaines, en l'occurrence. Et on a toujours ce spectre dans le fond du placard qui peut-être va ressurgir. Cette entreprise Moonshot AI dit, ça y est, on est au niveau des grands modèles américains. Bon, on a le droit de ne pas la croire, mais on peut éventuellement laisser le doute aussi, Maxime.
C'est vrai. On verra si ça se confirme, parce que bon, la déclaration, c'est bien, mais après, il faut que ça délivre. Là où je rejoins Julien, c'est juste pour compléter sur un point, c'est que je pense qu'en effet, sur les semi-conducteurs, on a, pendant de longs mois, là, on a eu une phase de hausse complètement vertigineuse sur toutes les valeurs. Et en fait, les investisseurs ne sélectionnaient peut-être pas les valeurs. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, Julien parlait de Soitec, c'est vrai que depuis ses plus hauts, Soitec perd quasiment 50%. Et je pense que, en effet, maintenant, STM, c'est pareil, on doit être à moins 15% depuis les plus hauts. Eh bien, les investisseurs vont regarder un peu plus dans le détail et vont s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration des marges. On sait que STM, on attend une amélioration des marges dès le deuxième semestre et surtout à partir de 2027. Et je pense qu'il y avait beaucoup de bonnes nouvelles qui étaient dans les cours. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est sûrement, vu les performances de ces titres-là, il y a sûrement aussi une prise de bénéfices quand même.
Oui, qui n'arrête pas. Ça fait 6 séances d'affilée que ST Microelectronics recule. 6 séances d'affilée, on est encore en baisse de 2% ce soir. Sur un mois, STM a perdu 19%. Soitec, dont on n'arrêtait pas de parler depuis le début de l'année. Alors, c'est encore en hausse de plus de 200% pour l'année. Voilà. Mais enfin, sur un mois, Soitec, c'est moins 32, là, Julien.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais ST Micro, je crois que c'est moins 150%. Si vous regardez, j'ai pas les chiffres sous les yeux et... C'est dommage. Antoine nous manque, là.
Ça doit être 120%, je crois, depuis le début.
Pardon, 120%.
Plus 120%. Plus 120%.
Oui, plus. Ça varie très vite, hein, parce que les... ouais. C'est le principe d'une suite géométrique. Hein. Ça varie très vite.
Ouais. L'indice Philadelphia semi-conducteur des États-Unis est un plus bas de 8 semaines. Il affiche une baisse de 19% par rapport à son sommet d'il y a un mois. Ça va très, très vite sur ce segment, mais qui était monté tout aussi vite. 17h36, c'est la clôture sur les marchés ici en Europe. C'est une clôture dans le rouge, donc sans grande surprise, le CAC 40 perd 0,47% ce soir en clôture, 8338 points. On est proche de l'équilibre sur la semaine, sur le CAC 40. Les valeurs qui se distinguent, alors on disait un mot il y a un instant, ST Microelectronics perd 3,9%. Publicis aussi recule de 4%. Tiens, après sa belle hausse d'hier, c'était une publication plutôt saluée hier, Publicis. Bah aujourd'hui, patatras, moins 4% Publicis en clôture. Repli aussi pour le secteur automobile qui s'en était bien sorti ces dernières séances. On avait eu un rebond de Stellantis et de Renault. Et, petite prise de bénéfice là quand même, en tout cas respiration après les séances haussières qu'on vient de connaître sur Stellantis, moins 3%, et sur Renault, qui recule en clôture de 2,8%. Ça, ce sont les plus forts replis. Et puis à la hausse, on a qui ? Bah, les valeurs défensives. Orange gagne 2,3% ce soir. On a le pétrole aussi, on va en reparler du pétrole, parce que c'est l'autre événement de la semaine, avec les flagellations de la tech, enfin les flagellations, les hésitations de la tech, on va dire comme ça. Le rebond du cours du pétrole. Le Brent est à $86 ce soir, donc, et Total Energy gagne 1,3% en clôture. On parle de toutes ces thématiques avec nos deux experts et Dorian Abadi, qui nous rejoint, Dorian Abadi, pour Meilleur Taux Placement. Bonsoir Dorian.
Bonsoir Guillaume.
Graphiquement, quel signal cette clôture ici en Europe et à Paris envoie-t-elle pour la suite, Dorian ?
Bon, c'est un signal de très grande prudence. Vous avez évoqué effectivement la baisse à la fois de l'indice et du compartiment des semi-conducteurs. On pourrait même aller plus loin en disant que Schneider Electric et Legrand, dans une moindre mesure, ont également été pénalisés aujourd'hui. Alors, bien sûr, à cause de leur exposition au centre de données. Mais dans le fond, on a toujours les deux mêmes sujets explosifs du moment, c'est-à-dire les tensions au Moyen-Orient d'un côté, de l'autre, cette chute que vous évoquiez au niveau des valeurs liées à l'intelligence artificielle, plus largement aux semi-conducteurs, au moment justement où s'ouvre la saison de publication des résultats trimestriels. Alors, si vous le permettez, Guillaume, moi, j'aimerais bien aussi attirer l'attention de nos auditeurs sur un risque que semble sous-estimer le marché actuellement et sur lequel nous avons interpellé nos clients. Bah, en fait, il ne s'agit pas d'être catastrophiste, mais simplement, on surveille beaucoup en ce moment de notre côté le possible blocage du détroit de Bab-el-Mandeb par les Houthis qui sont soutenus par l'Iran, parce que concrètement, vous avez le détroit d'Ormuz qui pourrait transiter les exportations saoudiennes par l'Est et celui de Bab-el-Mandeb par l'Ouest. Donc l'enjeu, clairement, là, il est crucial pour le pétrole dans les séances à venir. Et on sait à quel point le pétrole a joué sur les pressions inflationnistes et les taux, les anticipations de taux des différentes banques centrales.
C'est vrai. C'est vrai, prudence sur le pétrole parce que effectivement, alors le détroit d'Ormuz, c'est très compliqué, mais les marchés s'étaient dit ces dernières semaines, ouais, mais on a d'autres routes d'approvisionnement qui se sont créées, puis des alternatives aussi au pétrole. Oui, sauf que certaines des autres routes sont sous menace, effectivement, à nouveau iranienne. On pense à la mer Rouge, par exemple. Julien, ce soir, le Brent repasse au-dessus des $86 en hausse de 2,7%. Et Total Energy qui en profite. C'est l'un des grands événements de la semaine, le rebond des cours du pétrole.
Après, il faut dire que c'est les informations de Reuters, si je ne dis pas bêtise, qui vous dit que l'Iran enverrait les Houthis si les États-Unis venaient à frapper leur réseau électrique, énergétique, ce qui n'est pas encore le cas.
Non, pour l'instant, on en est aux ponts, aux aéroports. Enfin, on commence à toucher aux infrastructures civiles quand même. Hein.
Oui, après, c'est l'Iran qui a commencé à tout.
Oui, non, mais complètement. C'est pas...
Donc, on n'en est peut-être pas encore là. Je ne sais pas si. Et je pense qu'il s'agit en fait d'informations qui sont relayées plus ou moins par. Enfin, diffusées par les gardiens de la République, par l'Iran, pour faire un peu peur, et ce qui peut s'entendre. Ça dit, il en tient Durian a très bon raison. Si on commence à taper la mer Rouge et qu'on commence à aller sur les voies alternatives, il n'y a pas de raison que le pétrole reste à $86 le baril pour le Brent. Là, pour le coup, on est sur. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Maxime, mais là, pour le moment, le pétrole, il fait la part des choses. Il n'est pas dans l'exagération, il n'est pas du tout dans les aberrations de marché. Quand vous regardez les bombardements qu'il y a, quand vous regardez les risques, on n'est pas sur un marché du pétrole.
On n'est plus à 100, 110, 120 comme au cœur de la guerre. Oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il y a le retour quand même de cette guerre, on peut le dire, c'est affirmé, assumé, et pour autant, et les mêmes menaces, donc il y a un mois et demi, deux mois, et pour autant, un baril $15 en dessous, Maxime.
Oui, bah c'est vrai. On a remonté un petit peu parce que je crois qu'on avait début juillet, on avait dû toucher $70. Ouais. Mais on est très loin, en effet, des niveaux. On avait touché 110, je crois qu'on avait même touché $120 au plus haut. Donc bon, on a le marché qui fait un peu la part des choses. C'est un peu le cas aussi de notre CAC 40 finalement, parce que sur la semaine, alors qu'on a, comme disait Julien, le conflit qui est vraiment reparti et avec des combats très intenses entre l'Iran et les États-Unis, notre CAC 40 finalement, il est assez stable sur la semaine. C'est pas le cas d'ailleurs des autres indices européens. Les autres indices européens, ils doivent être aux alentours de moins 1% à peu près en moyenne sur la semaine. Donc, bon, on a, comme dit Julien, je pense que le marché fait la part des choses. C'est pas le cas par contre sur les taux. Sur les taux, on a vu que ça s'est très 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 tendu.
Sacrée semaine sur les taux, un peu partout et en France particulièrement, 3,94 hier le 10 ans français.
Exactement, et je crois même que le 30 ans a dû atteindre le record de 2008 avec la chute de Lehman.
Exactement, avec à l'époque une crise bancaire et financière, ce qui n'est pas le cas là. Donc c'est dire à quel point il y a un focus manifestement sur le 30 ans français, les taux longs français.
Exactement. Alors après, sur les taux français, il y a sûrement l'instabilité politique qui doit aussi entrer en jeu. On a le sujet de notre déficit qui court toujours. On a un ratio de dette PIB qui est à 117%, alors qu'on était à 115 il y a moins de 3 mois. On a un budget 2027 qui risque d'être très compliqué encore à mettre en œuvre.
Il n'y a rien en attendre en année électorale. En gros, le marché sait qu'il n'y a rien en attendre.
C'est ça.
Il sera un peu pieux, le budget 2027.
Oui.
Donc bon, et puis après,
ça c'est bon ou mauvais pour le secteur bancaire? On va en parler parce que les banques vont publier leurs résultats la semaine prochaine. Les taux qui montent, c'est bon ou c'est pas bon?
C'est mauvais pour les banques françaises.
C'est mauvais pour les banques françaises.
C'est le budget. En fait, les taux qui montent et l'instabilité politique en 2027 en France, malheureusement, c'est deux facteurs négatifs pour les banques françaises. Alors, on comprend assez aisément pourquoi, pour l'instabilité politique, c'est toujours mauvais pour les banques, pour les valeurs qu'on juge cycliques. Et les banques sont rangées à tort ou à travers dans les valeurs cycliques. J'ai tendance à dire ça parce qu'en fait, il y a pas mal de métiers. C'est très diversifié. C'est des banques universitaires, les banques françaises. Et elles ont pas mal de métiers. Je pense notamment à l'assurance, la gestion, la collecte d'actifs qui n'est pas si cyclique que ça, en fait. Là où c'est peut-être moins évident, c'est pourquoi est-ce que les hausses de taux sont mauvaises pour les banques françaises? Simplement parce que la structuration des taux en France fait que vous êtes beaucoup plus sensible aux taux, fait que vous avez des structures à taux fixes, pas à taux variables. Et la diversification des banques françaises que j'évoque, le marché, le financement automobile, la collecte d'actifs, la titrisation, enfin vraiment tout un tas de services, fait que en fait elles sont moins orientées vers les hausses de taux. Et donc ça a davantage à être les banques françaises, les banques espagnoles, irlandaises notamment, qui vont en bénéficier. Et il faut voir que hausse de taux, ça veut dire certes des taux de crédit qui peuvent remonter, mais comme je vous l'ai dit, on est à taux fixe en France, donc ça met du temps en fait pour que le sapin fasse sa mue. Et à côté de ça, vous avez les taux du livret A. Là, cette semaine, on a eu la hausse. Au 1er août, il passe à 1,7%.
Ouais.
Et le livret A, c'est des ressources que doivent rémunérer les banques. Donc, les banques françaises sont
prises en ciseaux. Là. Et exactement. La semaine prochaine, elles vont commencer à publier, d'ailleurs, nos banques. BNP Paribas va ouvrir le bal. Intéressant. Vous êtes super confiant pour la saison de publication, pour le potentiel de ce secteur aussi, qui nous déçoit un tout petit peu cette année. Là, ça va être l'occasion d'un début de rebond ou pas ? Ou de réaccélération haussière ou pas, Maxime ?
Bah, ce que va regarder le marché, alors déjà, si on regarde les banques américaines, elles ont fait des publications absolument spectaculaires.
C'est un autre monde,
d'accord. Les six plus grandes banques ont battu le consensus. Mais il y a une chose qui est quand même importante et qu'on va regarder si nos banques françaises ont réussi à faire la même chose, c'est qu'il y avait les marchés ont subi une très forte volatilité sur le dernier trimestre. Et ça, si les équipes de marché des banques ont été suffisamment bonnes, elles arrivent à tirer des profits de cette volatilité. On va voir, ça a été le cas pour les banques américaines. On va voir si les banques françaises arrivent à le faire. On réussit à le faire sur ce trimestre-là. Après, ce qu'on va regarder aussi, je me souviens que l'année dernière, c'était le cas pour BNP et Société Générale, c'était à cette période de l'été, ils avaient annoncé des très gros programmes de rachat d'actions. Il y avait eu 1 milliard d'euros d'annonces à peu près pour Société Générale, pareil pour la BNP. Donc, on va voir si on est sur cette ordre de grandeur ou si on n'a pas du tout d'annonce. Ça, c'est des choses qui peuvent faire bouger.
Pour laquelle on peut être le plus confiant ?
Compliqué à dire. On a un papier, nous, qui sort là-dessus ce week-end.
Ce week-end. Ah, vous arrêtez pas, hein.
Ce week-end.
Encore un papier ce week-end. BFMBourse.com.
Ce week-end, ça se joue entre BNP et Société Générale. En fait, Société Générale qui devraient tous deux livrer des bonnes copies. Ce sera plus compliqué pour Crédit Agricole et ça. Hein. Je préfère prévenir parce que eux, il y a des inquiétudes sur le capital et ce qui se passe en Italie où ils ont monté leur participation dans une banque italienne. Mais ça va se jouer entre BNP et Société Générale. Et juste sur Société Générale, pour rebondir, ce que vous disiez, Maxime, les analystes, ils attendent des rachats d'actions entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros.
Oui, ce qui fera du bien et plaisir sans doute à ce titre. Tiens, Dorian a peut-être son avis sur la question. Dorian Abadie depuis Meilleur Taux Placement, d'un point de vue purement graphique et technique. Alors c'est BNP depuis le début de l'année qui fait le mieux, hein, qui produit, qui performe le mieux dans le secteur bancaire. Est-ce qu'à votre avis, ce sera encore le cas au deuxième semestre, BNP mieux que les autres ?
Effectivement, BNP est à notre faveur depuis de nombreux mois. C'est vrai que le modèle de BNP est plus robuste et mieux diversifié que celui de Société Générale. À l'inverse, alors Société Générale a un potentiel supérieur, mais également un risque supérieur. C'est vrai que son plan de redressement n'est pas complètement terminé, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc aujourd'hui, le titre se négocie encore sous la valeur de ses fonds propres tangibles, ce qui laisse en fait un peu de marge de revalorisation. Mais vraiment, il faut que la société délivre. C'est-à-dire qu'il faut que les résultats soient bons la semaine prochaine. Donc on est sur un dossier plus risqué que BNP, très clairement, mais qui a aussi une meilleure appréciation, un meilleur potentiel éventuellement en bourse que le poids lourd BNP Paribas.
On vous rappelle la clôture ce soir. Le CAC 40 a terminé à moins 0,47. Il est à peu près flat sur la semaine, 8338 points. Dassault Systèmes négocie, alors ça c'est une des annonces du jour aussi, négocie le rachat d'Aris Global pour, on entend circuler ce chiffre, 2 milliards de dollars. Ce serait la deuxième plus importante acquisition de l'histoire de Dassault Systèmes. Le titre termine à moins 2% ce soir, Maxime, Dassault Systèmes. Ce serait de nature à transformer le profil de Dassault Systèmes, ce rachat ou pas ? Ou trop cher, quoi. Voilà, c'est trop cher et puis c'est simple.
Trop cher, c'est toujours trop cher.
Ouais, c'est ça.
Mais ce rachat, il serait complémentaire avec la très grosse acquisition, c'était leur plus grosse acquisition qu'ils avaient fait en 2019, c'était Medidata.
Oui.
Parce que Aris Global, c'est un éditeur américain de logiciels. Et qui est spécialisé dans c'est des logiciels qui sont dédiés aux essais cliniques et qui servent à tester la sécurité des médicaments, la conformité.
La pharmacovigilance.
Exactement. Et donc, il y a des complémentarités avec leur division Medidata. Maintenant, l'intégration de Medidata, ça a été un peu un caillou, quand même, pour Dassault Systèmes. Ils n'ont pas réussi à vraiment tirer profit de cette division. Après, ce que beaucoup d'analystes expliquent, c'est que Dassault Systèmes, qui a subi une très forte correction avec la SaaSpocalypse, et qui avait dégradé un peu ses prévisions, c'était à l'automne dernier, et qui avait été fortement sanctionné en bourse. Aujourd'hui, en fait, ce que le marché attend, c'était pas forcément des opérations de fusion et acquisition, c'était plutôt des retours aux actionnaires. Ils attendaient plutôt des programmes de rachat d'actions. En plus, ça se paye quand même 10 fois le chiffre d'affaires, parce qu'a priori, Aris Global, ça générerait 200 millions d'euros de revenus annuels, donc
cher payé,
un peu cher payé.
Ouais. Voilà. Dassault Systèmes, moins 2 ce soir, logique. Alors, pris dans la sanction tech, hein, bien sûr, mais bon, cette acquisition, pareil, elle vous enthousiasme pas, cette perspective-là, en tout cas, Julien?
Je dirais même que les moins 2 n'est pas très méchant. Oui. Vous vous renforcez sur un... Sur
ça aurait pu être pire.
Vous renforcez sur un axe sur lequel, en fait, vous qui a été une source de déception chronique depuis 4 trimestres.
Ouais.
Je veux dire, les sciences de la vie. Donc, les sciences de la vie, c'est le segment sur lequel est Medidata. C'est moins 3% sur le dernier trimestre et moins 4% sur celui d'avant. Et Medidata, en fait, le problème, c'est que les essais cliniques, il y en a moins. En fait, la demande est moins forte. Alors, eux, ils pensent que ça va. Dassault Systèmes pense que ça va partir. Ils ne peuvent pas vous dire quand. Ça, comme l'a dit Maxime, en fait, c'est une source chronique de déception. Est-ce que c'est sur ce secteur qu'il fallait nécessairement se renforcer? À voir.
Dorian, graphiquement, après cette baisse moins 2% ce soir Dassault Systèmes, quel potentiel pour la suite?
Bon, potentiel extrêmement limité. Je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que nous, on est négatif sur le dossier pour toutes les raisons qui ont été invoquées. On n'anticipe pas du tout de rebond puissant, je dirais, à court ou à moyen terme. Là aussi, les prochains résultats trimestriels seront déterminants, mais on ne croit pas du tout que cette possible acquisition d'Ares Global aujourd'hui permette radicalement de changer le modèle de Dassault Systèmes. On est certes sur une action qui perd 55% en 3 ans, mais ça ne suffit pas de notre point de vue comme argument pour la racheter aujourd'hui.
Merci beaucoup Dorian de nous avoir accompagné depuis Meilleur Temps Placement. Bonne soirée, bon week-end. Le CAC 40 ce soir, on vous le rappelle, en clôture, perd 0,47%. On parlera dans un instant d'aéronautique parce qu'il y a un immense salon mondial de l'aérien qui aura lieu la semaine prochaine au Royaume-Uni et on parlera d'Airbus. On parlera aussi de... faisons-le tout de suite, SpaceX. Depuis avant-hier, c'est plus ça. Hein. SpaceX qui atterrit très clairement, qui est sous son cours d'introduction, mais nettement. Le titre s'était introduit à $135. Ce soir, en direct, SpaceX, sous nos yeux, étonné ou pas, ne cote que $123 SpaceX. Maxime, voilà, on est largement sous le cours d'intro désormais.
C'est vrai, sans mauvais jeu de mots.
10% sous le cours d'intro.
Ouais, sans mauvais jeu de mots, l'action avait très fortement décollé. Et là, on est plutôt en train d'atterrir sur en dessous du niveau d'introduction. On était à $135, là on doit être à $123. Alors qu'on avait touché, je crois, $200, pas plus de, on avait même dépassé
225, même ouais, 226, voilà. Je crois, le maximum. Bon.
Donc, je crois qu'on avait passé 1000 milliards de capitalisation à peu près, plus de 1000 milliards de capitalisation depuis les
Et sachant qu'on a encore des fenêtres de vente, des lock-up à venir.
C'est... Complètement. Et alors, bon, là, ce qui pénalise, c'est parce qu'hier, c'était le premier lancement de la fusée Starship, et c'est depuis que SpaceX s'est introduit à Wall Street. Et bon, il y a eu un problème de démarrage des moteurs au moment d'allumage des moteurs au moment du décollage et c'est reporté à la semaine prochaine. Donc, bon, ça fait pas trop.
Oui, donc la semaine prochaine, on repasse au-dessus du cours d'intro, alors du coup.
J'en doute.
C'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça, j'en doute. Et je pense que nous, on faisait partie, en tout cas, GGSD, de ceux qui estimaient que c'était très, 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 très cher. Et déjà, à $135, nous, on trouvait que c'était très fortement valorisé. Alors, au-dessus, n'en parlons pas. On trouve que c'est encore très fortement valorisé. On ne remet pas, en fait, du tout en cause le potentiel de SpaceX à long terme. L'idée complètement folle et peut-être géniale d'Elon Musk de mettre des data centers dans l'espace. Mais on pense qu'il va falloir du temps pour que ça arrive. Et
$123, on est très loin sous le cours d'introduction désormais. Avant-hier, on disait, oh là, on chatouille par le bas le cours d'intro. Là, on est clairement 10% en dessous désormais, Julien.
Oui, mais c'est pas surprenant, si vous voulez. Déjà, il y a un flot, il faut rappeler quand même, un SpaceX, c'est 4% du capital qui flotte. Donc ça vous connaissez nécessairement, ça fait des grosses variations. Ensuite, sur Starship... Moi, je trouve que la sanction n'est même pas si sévère que ça. Il faut voir que Starship, c'est la pierre angulaire de la thèse d'investissement sur SpaceX. Pourquoi ? Parce que Starship, c'est une fusée entièrement réutilisable. Ça veut dire qu'avec elle, vous diminuez extrêmement les coûts de lancement d'un satellite. Aujourd'hui, les coûts de lancement, c'est, je crois, $2000 chez SpaceX par kilogramme pour un satellite. Ils veulent tomber à 200. Et s'ils arrivent à le faire, eh ben, vous allez pouvoir lancer des satellites qui seront... ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc, Starlink, il y aura beaucoup plus de satellites, donc ils pourront faire encore plus de services, donc il y aura plus d'argent.
C'est exponentiel.
En plus, c'est des services de connectivité, donc c'est revenus. Et après, vous pourrez envoyer des centres dans l'espace qui, en termes d'énergie, n'auront pas tous les problèmes dont on parle ici, parce qu'il y aura le soleil. Donc, si cette base s'effondre, tout tombe.
Oui, mais on ne sait pas.
On ne sait pas, mais c'est pas...
On ne sait pas, on doute.
Annuler un lancement, c'est pas un bon signal.
Oui, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise spatiale.
Ça, c'est vrai.
C'est ça que c'est normal.
Ça, c'est vrai,
C'est normal. Bon, en tout cas, ce soir, très loin de son cours d'introduction SpaceX. Alors, on va revenir plus proche de la Terre avec les avions traditionnels, qu'ils soient civils ou les avions de guerre. Farnborough, donc le grand salon aéronautique de Farnborough, c'est la semaine prochaine. C'est l'équivalent du Bourget, mais version britannique. Hein. C'est un an sur deux, c'est ça, Julien ?
C'est un an sur deux. Alors, c'est le troisième salon mondial, en fait, aéronautique. Ah. Car vous avez le Bourget, mais Dubaï, qui a toujours lieu à l'automne, est devenu le deuxième salon aéronautique au monde. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle, chers auditeurs, de ce salon ? C'est parce qu'il y a un grand rendez-vous pour Airbus qui aura lieu mardi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire ce qu'on appelle un business update. C'est-à-dire, en gros, une mini journée investisseur. Et je dis mini, mais l'année dernière, ils l'avaient fait au Bourget, ça avait duré 4 heures. Hein. C'était vraiment très développé. Est-ce que les analystes attendent, qu'ils n'ont pas fait l'an dernier, c'est donner des objectifs de moyen terme pour leur division aéronautique civile, donc la principale, hein, 70% du chiffre d'affaires. Et ça, les analystes pensent que ça va servir de catalyseur. Pourquoi ? Parce que le marché, en fait, on voit ici, on suit chaque semaine, chaque mois, les livraisons d'Airbus. Si vous donnez des objectifs de moyen terme et que vous donnez un cadre pour se projeter à moyen terme, vous désensibilisez le marché à ces va-et-vient de la production. Ce que les analystes attendent, ce serait un objectif de résultat opérationnel ajusté à moyen terme de 10 milliards d'euros. Pardon. Ce serait un peu moins que le consensus, mais voilà ce que Airbus pourrait annoncer. Et ça, il faudra vraiment le surveiller comme l'est sur le feu. Je crois que ce serait Royal Bank of Canada qui vous dise aussi qu'il pourrait aller jusqu'à 1050 livraisons pour 2030, je crois, si je ne dis pas bêtise, ou 2029. Voilà, à surveiller. Mais vraiment, c'est un grand rendez-vous et ce sera peut-être même un plus grand rendez-vous que les résultats trimestriels qui auront lieu fin juin.
D'accord, c'est mardi donc Airbus doit faire ce...
Business update.
Business update, voilà. Donc mardi, vous serez mobilisé sur Airbus.
Exactement.
Sur le fond, vous y croyez, enfin vous y allez, il faut y aller. On peut y aller en aveugle sur Airbus, c'est le genre de boîte dans laquelle on peut investir un peu en aveugle.
Bah, nous, après la remontée du cours, parce que le titre est quand même un peu remonté depuis un mois et demi, nous on est plutôt neutre, on attend des meilleurs points d'entrée. Maintenant, non, on n'a pas de remise en cause sur leur business model, honnêtement. Ouais. Et en plus, ils ont réussi à complètement rattraper leur retard parce qu'ils ont fait un début d'année catastrophique en termes de livraison d'avions sur les trois premiers mois. Après, ils ont fait un mois de mai qui était très très bon et un mois de juin complètement exceptionnel. Mmh. Et donc, ils ont réussi à rattraper leur retard. Bon, maintenant on verra, c'est intéressant en effet.
Après, le segment aérien, il dépend beaucoup de la géopolitique quand même. On a Vinci qui nous fait part d'une baisse du trafic de passagers dans ses aéroports là au deuxième trimestre d'1,3%. ADP qui révise, mais fortement à la baisse, sa prévision de croissance du trafic à Paris en 2026. Aéroport de Paris s'attendait pour cette année à une hausse du trafic aérien comprise entre 1,5 et 2,5. Finalement, ce sera que 0,5. C'est-à-dire qu'ils divisent par 3 leurs attentes de trafic, de hausse du trafic cette année.
Ouais, mais regardez ce que fait l'action. Rien du tout. Moins 1,5, peut-être 2. Je ne l'ai pas à la clôture, hein, je vous la donne. Ouais. J'ai raison.
Je ne l'ai pas sous les yeux, Julien.
Vous l'avez pas j'en suis navré. Voilà. Mais en tout cas,
j'aime bien
pas,
ce genre de.
Ça a pas. J'ai un problème que j'ai regardé tout à l'heure. Ça n'a pas chuté outre mesure.
On est à moins 1,6%.
Ben oui, oui.
Ça n'a pas bougé, ouais.
Oui. Bon, il faut voir que ce n'est pas complètement invraisemblable qu'Aéroport de Paris annonce cela, simplement parce que tous les opérateurs d'aéroports. Européens, donc vous avez Fraport, Zurich Aéroport, AENA, le géant espagnol, ils sont très loin exposés le plus au Moyen-Orient. C'est ce que Paris constitue un hub pour les touristes du Moyen-Orient qui après vont faire les boutiques, enfin, je caricature un peu, à Paris. Mais en tout cas, là, ils sont exagérément exposés à la clientèle du Golfe par rapport aux autres aéroports. Donc c'est pas complètement impossible. Le problème d'Aéroport de Paris, c'est que ça, c'est un facteur ponctuel. La vraie question sur l'aéroport de Paris, c'est la régulation. Le cadre, ce qu'on appelle, je l'ai en anglais, excusez-moi, l'ERA, c'est le creux, le contrat de régulation économique, et comment, en fait, on va réguler les aéroports parisiens sur les 5 prochaines années, comment on définit le taux de rentabilité, les tarifs, les investissements, et ça, il y a un contentieux, il risque d'y avoir des contentieux.
Des contentieux.
Des contentieux avec l'autorité des transports. C'est ça la vraie clé de valorisation du groupe.
Ouais. Dorian?
Maxime.
Les aéroports. Dorian, oui, on salue Dorian Abadie d'ailleurs qui nous a quittés.
Bonjour Antoine.
Un week-end, bonsoir. Maxime, donc sur Aéroport de Paris, la thématique aéroportuaire compliquée quand même. ADP révise très fortement à la baisse sa prévision de croissance du trafic.
Oui, bah c'est.
C'est rare une telle révision.
C'est vrai, c'est le cas de Vinci aussi. Nous, ADP, honnêtement, on est plutôt à l'écart, enfin, c'est pas tellement un titre qu'on regardait. Vinci, par contre, on était plutôt à l'achat, on l'est toujours d'ailleurs sur ses prix un peu moins de 120 euros. Le contexte géopolitique, de toute façon, pénalise tout le trafic et toutes les régions. C'est le cas, évidemment, au Moyen-Orient. Et puis, je reviens aussi sur le pétrole, c'est que la montée des prix a fait flamber aussi un petit peu les prix des billets, donc ça pénalise aussi un petit peu la demande.
C'est vrai aussi.
Ça oblige aussi les compagnies à réduire leur capacité, donc à faire moins de vols et donc à donner moins de redevances d'atterrissage et décollage aux groupes aériens portuaires.
Oh les amis, je vois aussi le luxe qui a souffert. Burberry, moins 6% ce soir. Encore lié au Moyen-Orient manifestement, puisque les consommateurs en Europe ont boudé Burberry du fait de cette guerre au Moyen-Orient. Voilà ce que nous dit le groupe. Moins 6% à Londres ce soir, Burberry, Julien.
Moi, je ne sais pas si c'est lié au Moyen-Orient, pour être honnête avec vous, Guillaume. Je pense que c'est simplement lié au fait que le marché attendait 5% de croissance, qu'ils font pile 5% de croissance et que donc, ils sont juste en ligne avec les attentes. Là, vous avez Richemont qui les avait éclatés. Ouais. Mais vraiment, ils étaient à 20% contre 11% attendu mercredi. Donc, forcément, ils font un peu la comparaison. Et Burberry, ça a beaucoup remonté depuis 2024. C'est l'histoire d'une renaissance. La question, c'est est-ce qu'ils n'ont pas pris les fruits les plus bas de l'arbre dans leur renaissance?
Mais exactement, le plus facile. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Maxime Lejuez, gérant GSD Gestion, qui sera régulièrement à vos côtés ici, bien sûr, en plateau cet été. Merci Maxime, ainsi que Julien Marion, qui tient la barre de FMBourse.com, avec Sabrina Salgui, qu'on salue également, ainsi que Dorian Abadi. Dans un instant, Nathan Cocampo pour l'essentiel de l'actu économique du jour. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.